Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. Le maire de Nicodère a présenté à la fin janvier un nouveau programme pour rendre accessibles les commerces. On en parle avec deux intervenantes qui ont deux points de vue, Caroline Tessier de la Société de développement commercial Saint-Denis et Linda Gauthier du Raplic. On prend aussi des nouvelles du service tout juste à côté de Canal M, Vues et Voix, qui offre un service de livres en version audio. Et cette émission est aussi sous le signe du don. Donc, on rencontre un collecteur de fonds de grand talent qui vit aussi avec la paralysie cérébrale, le Rémi Mailloux, directeur général de La Ressource. Et notre chroniqueuse philanthropie, Jacinthe Roy, s'intéresse avec nous à une grande nouvelle. La Société canadienne du cancer fusionne avec un autre joueur majeur, la Fondation du cancer du sein. Donc, dans quelques instants d'ailleurs, André Beaulieu, porte-parole de la Société canadienne du cancer, nous explique un peu mieux ce qui se passe. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Une personne sur trois vivra avec le cancer à travers le pays. Évidemment, en 1940, on trépassait très souvent, mais les avancées sont telles aujourd'hui que la majorité survivront au cancer. La Société canadienne du cancer est l'organisme de bienfaisance nationale qui subventionne le plus la recherche sur le cancer. Vous comprenez un peu mieux pourquoi aujourd'hui, quand on lit que cette société va fusionner avec une autre, la Fondation canadienne du cancer du sein, ça nous interpelle. Alors, avec nous, pour mieux comprendre la situation, André Beaulieu, porte-parole de la Société canadienne du cancer. Bonjour, M. Beaulieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
C'est important de dire peut-être que ça fait déjà plus de 20 ans que vous œuvrez non seulement avec la Société canadienne du cancer, mais avec des organismes en santé.
Oui, depuis plus de 20 ans, 25 ans facilement, oui.
Donc, on peut s'attendre à ce que vous ayez un regard sur cette situation. Vous connaissez bien ce qui s'y passe.
Oui, bien, j'ai vu une grande évolution, effectivement, pour les organismes, puis comment le marché, justement, de la philanthropie dans ce secteur-là a évolué, a changé, et est devenu aussi beaucoup plus... rempli, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y avait à l'époque, la Société canadienne du cancer était seule à jouer un rôle pour amasser des fonds dans le domaine du cancer. Aujourd'hui, au Canada, il y a plus de 300 organisations qui portent le nom, dans leur nom, il y a le mot cancer.
Ah, c'est énorme!
Et au Québec, uniquement, c'est 75. Mm-hmm. Et comme je vous disais hors d'onde, qu'il y a aussi tout le phénomène des fondations, des hôpitaux qui utilisent justement les soins liés au cancer pour aller chercher des fonds. Le sociofinancement, hein, les gens qui demandent de l'argent justement pour les aider, pour les traiter.
Parlons-en des gens maintenant, même en initiative individuelle, ont besoin d'argent, besoin d'aide et font appel à leur réseau pour pallier, pour financer.
Pas juste le réseau, même à les étrangers. Finalement, c'est sur le web. Et puis donc ça aussi, ça joue. Quoique pour nous, on ne voit pas nécessairement un impact nécessairement avec notre organisme, mais ça s'ajoute. Mm-hmm. C'est une demande supplémentaire. Les gens sont extrêmement sollicités pour des dons. Puis pas juste pour le cancer, pour tout.
Oui, donc on pourrait dire que les donateurs vivent quand même de plus en plus de pression, pour les questions de santé en tout cas, entre autres. Oui. Écoutez, pour que les gens comprennent bien, qu'est-ce qu'on fait exactement avec les dons à la Société canadienne du cancer?
Bien, nous, notre mission, elle est globale, c'est-à-dire qu'on travaille avant, pendant et après. La maladie qui s'appelle le cancer. Puis le cancer, c'est 200 maladies différentes. Donc, on travaille pour tous les cancers. On est là pour la prévention, parce que si on veut faire une différence, vous savez que le vieillissement de la population puis l'accroissement démographique, ça, on ne pourra pas changer ces données-là. D'ici 2030, il va y avoir une personne sur quatre au Québec qui va avoir 65 ans et plus. Donc, ça amène beaucoup de problèmes de santé possibles, notamment le cancer, qui est déjà la première cause de mortalité au Québec et au Canada. Donc, quand on regarde ça comme portrait, c'est là qu'on se dit, bien, il faut justement, nous, ce qu'on fait, c'est de la prévention. Du soutien, parce qu'il faut soutenir les gens. Ça a un impact physique, mais psychologique très important, et pas juste pour la personne, mais aussi pour tout l'entourage, la famille, les amis. Donc, on est là pour toutes ces personnes-là. L'information et finalement la recherche, évidemment, qui demeure la pierre angulaire de ce qu'on peut faire comme pour faire avancer les choses. Vous en parliez, dans les années 40, puis même jusqu'à il y a une dizaine d'années, avoir un cancer, c'est une maladie mortelle dans la tête des gens. L'OMS a déclaré il y a à peu près, peut-être moins de 10 ans, que le cancer était aujourd'hui une maladie chronique. Ça, ça a changé énormément de choses, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de survivance.
Oui, les gens doivent vivre, au fond, avec le cancer plutôt qu'en mourir.
Exactement. On traite des cancers qu'on ne pouvait pas traiter avant. Mm-hmm. Et ça, ça fait, ça change beaucoup le poids, justement, au niveau des traitements et des soins qu'on doit apporter.
On sent bien l'importance de cette cause. On comprend bien que les gens sont très interpellés par le cancer et donc qui donnent beaucoup. Mais en novembre dernier est tombée une nouvelle, celle où on annonçait votre fusion avec la Fondation canadienne du cancer du sein. Mm-hmm. Peut-être que vous pourriez nous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis ce moment-là.
Bien, dans le secteur de la philanthropie globale au Canada, il y a un phénomène, puis je veux dire, qui est à la baisse. C'est-à-dire que si on regarde au Québec, les dons continuent à augmenter par capita. Hein. Je veux dire, on a toujours été l'endroit au Canada où globalement on donnait un peu moins que nos amis anglophones. La philanthropie était peut-être moins... intrinsèque comme phénomène de société. Je vous dirais qu'au Canada anglais, maintenant, les dons sont à la baisse.
Ah oui, c'est
donc,
ça.
Donc, on voit que les dernières études nous montrent ça. Donc, les gens ont moins d'argent, mais donc, sont est-ce que encore plus sollicités.
Cette fusion-là, est-ce que c'est une pression plutôt du Canada anglais? Parce qu'au Québec, c'est assez stable.
Oui, mais en même temps, oui, c'est une réalité globale parce que nous, en fait, on est une société canadienne. Donc, il faut regarder ça dans son ensemble. Et on s'est dit comment, si on dédouble les efforts, si on met en place des structures pour tous les organismes qui existent dans le domaine du cancer, c'est beaucoup, c'est des dépenses, c'est de l'argent de moins qui va finalement en soutien, en service, direct
ou en recherche
voilà. Au bout du compte.
Écoutez, donc, à la lecture des états financiers de votre dernière organisation, des dernières années, on se rend compte que ce qu'on pensait être la locomotive de votre organisme, le relais pour la vie, a vécu des baisses importantes de financement. Même dans le dernier état financier disponible, on voit 10 millions de moins à l'échelle canadienne d'amasser pour le relais pour la vie. Est-ce que c'est un événement en perte de vitesse, même si on en parle beaucoup?
Je ne vous dirais pas qu'il est il demeure très pertinent, puis le relais pour la vie est unique. Et je ne vous dirais pas qu'il y a une concurrence directe parce qu'il n'y a rien qui compare le relais pour la vie.
Ouais, puis pour les gens qui nous écoutent, le relais pour la vie, c'est cette activité où on passe la nuit ensemble et on a préalablement amassé des dons autour de nous là, pour atteindre notre objectif.
Exactement. C'est une marche de 12 heures, de 7 heures à 7 heures le matin. Puis finalement, tout est fait en fonction de rendre hommage aux gens, faire une introspection par rapport à justement pour penser à ceux qui ont malheureusement, qui ont vécu, qui ont perdu leur combat contre le cancer ou que tant mieux ceux qui ont survécu, mais enfin, il y a une introspection. Et aussi, on se demande comment on peut faire pour aider la lutte au cancer. Fait que oui, il y a eu une baisse effectivement de revenus pour revenir à votre question, mais je pense qu'il faut, justement, on a voulu, le conseil d'administration, la direction, on a voulu voir comment on pourrait travailler plus ensemble, parce que le thème autour de la fusion est « Ensemble, nous sommes plus forts ».
Mais c'était votre signature corporative depuis des années en plus.
Alors, effectivement, le mot « ensemble », je pense que vous joue très bien dans ce cas-ci. Puis, effectivement, c'est ça, on évite les dédoublements administratifs. Mm-hmm. N'oubliez pas que quand il y a une fondation ou une organisation, c'est les services de ressources humaines, des services de communication, de marketing, au niveau des finances et tout ça. Donc, si on peut regrouper les organismes ensemble sous un chapeau, qui est, dans ce cas-ci, la Société canadienne du cancer, on va pouvoir justement offrir des services communs à tout le monde, à toutes ces organisations-là et
davantage investir pour ce qu'attendent les donateurs, au fond.
Exactement. Puis la perception est très positive. Le donateur, lui, ce qu'il veut, c'est que son argent soit bien utilisé et aille au bon endroit, c'est-à-dire pour la personne qui est touchée par la maladie, en service, en recherche ou en soutien, dépendant de la mission de l'organisation à qui on donne. Mm-hmm. Dans notre cas, c'est tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé justement de mettre en place cette fusion qui a été officialisée le 1er février dernier.
Question en outro, diraient les pianistes. Est-ce qu'il y aura d'autres acquisitions? Acquisitions, pas nécessairement, mais fusion avec d'autres groupes? Est-ce que vous pensez que la Société canadienne du cancer elle-même est appelée à se fusionner avec d'autres groupes?
Il y a des pourparlers avec d'autres organismes. Je ne peux pas, pour l'instant, vous donner plus de réponses à ça. Mais oui, c'est possible. Ce modèle-là, vous savez, est assez unique. Ça n'est même pas fait aux États-Unis. Mm-hmm. Je sais qu'on regarde ça en Amérique du Nord d'une façon... on est très intéressé par ce qui se passe.
C'est un laboratoire, pratiquement.
Hein? Oui, parce que... Puis ça, c'est fait en Grande-Bretagne où cette fusion a eu lieu et justement, ça a été très bénéfique pour le milieu de la philanthropie. On a pu, au bout du compte, servir mieux la population et les gens qui sont ciblés par les organismes.
En fait, moi, je suis très surpris. Là, on a vu ça pendant quelques mois. On dirait que ça a pris 4 mois environ négocier la fusion. Je suis très surpris de ça parce que c'est 2 grosses organisations. C'est vraiment un travail de colosse que vous avez fait. Enfin, écoutez, on suit ça. On vous retrouve d'ailleurs, c'est toujours à la même adresse, au cancer.ca.
C'est tout simple que ça, oui,
cancer.ca. Ouais, qu'on recherche sur le cancer du sein ou les autres cancers, c'est à la même adresse.
Oui, je peux donner aussi un numéro de téléphone, 1-888-939-3333. Vous appelez et n'importe quelle question liée au cancer, on va vous répondre.
Merci beaucoup, André Beaulieu.
Merci.
Voici maintenant le temps de notre chronique service qui vous présente des services que vous pouvez utiliser. On parle aujourd'hui du livre « Audio adapté » et avec nous, rien de moins que la directrice générale de l'organisme Vues et Voix qui abrite la radio que vous écoutez à l'instant, Marjorie Théodore. Bonjour, bienvenue.
Mais bonjour.
Marjorie Théodore, ce livre audio que les gens entendent souvent d'ailleurs à notre antenne, ça s'adresse à qui?
Bien, premièrement, le livre audio, dans sa mission première, hein, on sait que Vues et Voix, qui était anciennement la magnétothèque, c'était vraiment pour les gens qui avaient une déficience visuelle. Mais au fil du temps, on a vraiment élargi. Donc, alors, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont une déficience visuelle physique. Et on parle aussi de la déficience perceptuelle. Mm-hmm. Donc, on parle aussi des troubles d'apprentissage. Alors, le livre audio est accessible et est vraiment utile pour tous ces publics cibles.
Donc, tous ces gens-là peuvent avoir besoin du livre audio. Puis, ça peut survenir dans la vie aussi. Hein. On peut peut-être avoir en cours de route quelques affaiblissements de notre vision.
Oui.
Puis peut-être découvrir qu'on présente des difficultés à la lecture. Donc, supposons là, qu'on se rend compte qu'on a besoin du livre audio. Comment on fait pour s'y inscrire?
Bien, comment on fait pour s'y inscrire présentement? C'est vraiment via la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, parce qu'on sait que Vues et Voix est un producteur. Donc, sa diffusion est faite à la diffusion, je veux dire, de ses produits. en livre audio est faite par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, par leur service québécois du livre adapté. Mm-hmm. Donc, alors quelqu'un qui aurait besoin, qui a d'abord cet handicap, il faut le dire, hein, c'est un service spécialisé, doit aller s'inscrire via le service québécois du livre adapté et fournir aussi les documents qu'il faut pour ouais. démontrer aussi le handicap.
Donc, ça prend, au fond, une attestation médicale ou peut-être un ergothérapeute,
voilà,
optométriste.
Orthophéniste pour ceux qui ont les troubles d'apprentissage.
Okay.
Et puis, pour tous les autres, ben, c'est les spécialistes au niveau des yeux, etc.
OK. Supposons, donc, qu'on a besoin du livre. Est-ce qu'on en trouve beaucoup? Ceux qui sont produits par Vues et Voix, oui. Est-ce qu'on peut lire ce qu'on veut?
Bien, on peut lire ce qu'on veut parce qu'on suit quand même une politique de développement de collection mm-hmm. Qui est donnée aussi par la Grande Bibliothèque du Québec parce qu'il est le client principal de Vues et Voix. Donc, on imagine que cette collection est aussi équilibrée. Donc, alors oui, on peut lire ce qu'on veut, mais malheureusement, ce qu'on doit toujours dire, c'est que c'est limité hein, parce qu'on parle quand même de 750, puis cette année, en plus, les deux prochaines années, c'est 700 titres par
ouais.
année.
Donc, 50 de moins par année?
Oui. C'est ça. Les deux prochaines années, on a 50 livres de moins par année. Donc, ça fait quand même 100 titres de moins sur 2 ans. Donc, ce qui est beaucoup et ce qui enlève aussi au niveau du choix.
Est-ce qu'il y a un moyen que les gens puissent aider? Est-ce qu'on retrouve 100 livres de plus?
Ah, bien, c'est toujours l'aspect financier hein,
ah,
des
oui,
choses.
C'est ça.
C'est l'aspect financier. Donc, là, Vues et Voix produit pour la Grande Bibliothèque qui a un budget via un appel d'offres. Bon, alors, c'est malheureux que ça soit comme ça, mais c'est comme ça. Mais par contre, en tant que producteur, on peut produire pour d'autres institutions.
Ah,
on
oui.
peut produire pour tous ceux qui ont les troubles d'apprentissage. On pourrait produire pour le ministère de l'Éducation du Québec. Alors, c'est d'autres choses. Ce sont des pistes sur lesquels on est, mais malheureusement qui prennent du temps à se développer. Mais
est-ce que vous croyez que c'est connu d'ailleurs? Est-ce que les gens d'ailleurs pourraient aider à mieux faire connaître Vues et Voix?
Oui, il faut toujours travailler au sens de la visibilité, de mm-hmm. faire mieux connaître. Mais au sein des publics cibles, oui, c'est quand même connu, le service de Vues et Voix. Puis au niveau des ministères aussi, du gouvernement,
ouais.
c'est connu parce qu'on fait nos représentations de façon régulière. Mais c'est aussi les systèmes. Hein. Les systèmes, ils prennent des décisions, puis souvent les décisions sont imposées. Puis on voit qu'à un moment donné, il y a des effets collatéraux.
Ouais.
Donc, on est obligé d'aller avec parce qu'on est quand même une organisation, on doit survivre, hein, on doit poursuivre. Mais il y a quand même beaucoup d'améliorations à faire au niveau du nombre de titres qu'on peut produire.
Est-ce qu'on vous en suggérez, nous qui entendons en ce moment, non seulement notre
oui.
émission, mais vos productions, est-ce qu'on peut suggérer des titres?
Bien, on peut suggérer des titres à la Grande Bibliothèque parce que c'est elle qui est le donneur d'ordre mm-hmm. Pour Vues et Voix en matière de production. Oui, mais comme de fait, ils vont suivre aussi la politique de développement de collection, c'est-à-dire si le titre en question peut être inclus dans cette politique, oui, on le fera, oui, tout à
okay.
fait.
Donc, pour accéder à toute l'information, on peut aussi se rendre sur le site web de Vues et Voix, donc vuesetvoix.com. Il ne faut jamais oublier les pluriels. Hein?
Tout à fait.
Donc, on épelle clairement V-U-E-S.
Oui.
ETVOIX.com. D'ailleurs, en couverture, on voit en ce moment Claudia Larochelle, qui est
oui.
porte-parole. Elle est toujours porte-parole.
Oui, Claudia Larochelle est toujours porte-parole, mais elle a eu un bébé. On lui a
oui,
laissé le temps
vrai.
De vivre sa maternité. Hein, et puis, on va lui donner d'autres mandats, bien sûr, mais on voulait lui prendre le temps parce que ça a été un peu plus difficile pour elle les derniers mois. Oui, tout à fait.
Non, mais c'est exigeant. On l'a su aussi, mais on sait qu'elle embrasse cette cause. Non seulement
exactement.
Celle du livre, mais oui. le livre audio. Donc, si vous la voyez là, sur la page où vous lisez Claudia Larochelle, vous êtes au bon endroit.
Au bon endroit, exactement.
Bon, merci beaucoup, Marjorie Théodore. Merci.
Bien, merci à toi. Ça fait plaisir.
À bientôt. Thank you. Avec nous, Jacinthe Roy, directrice générale de l'APGP, qui nous éclaire sur le monde de la collecte de fonds. Bonjour, Jacinthe Roy.
Bonjour, Benoît Racette.
Bonjour. Donc, aujourd'hui, on n'éclaire pas seulement sur le monde de la collecte de fonds, mais on réagit ensemble à une nouvelle depuis novembre dernier, et ça s'est confirmé en janvier. On sait que la Société canadienne du cancer et la Fondation canadienne du cancer du sein se sont finalement fusionnées. Comment vous réagissez à ça, Jacinthe Roy?
En fait, c'était très intéressant d'entendre André Beaulieu qui nous a ressorti le slogan de cette belle fusion, « Ensemble, nous sommes plus forts ». Et puis, ce slogan-là, ça doit nous faire réfléchir, en fait, en tant que soit membre du conseil d'administration d'un organisme non lucratif ou à la direction générale d'un tel organisme, à savoir, est-ce qu'il y a des bénéfices à se fusionner ou à se regrouper, en fait, avec d'autres organisations?
Oui. Donc, puis pour le donateur aussi, hein?
Bien, en fait, c'est la question que je me suis posée en écoutant M. Beaulieu et je me suis dit, oui, en tant qu'employé, en tant qu'administrateur, on peut se poser la question, mais est-ce que les donateurs ont été sondés?
Mm-hmm.
C'est eux aussi qui font vivre nos organismes, pour la plupart, les organismes de bienfaisance, hein, avec leurs dons, qui croient en notre mission. Et je me suis posé la question, est-ce que les donateurs de ces deux grandes organisations étaient en accord avec... sans être en accord, mais ont eu la chance de se prononcer.
Ah, c'est une bonne question, en effet.
Sur le fait.
Du côté de la Société canadienne du cancer, je pense que ce qu'on défend, c'est que les frais... devraient être moins importants, les frais d'opération, les frais de base. C'est l'argument, d'ailleurs, qui est présenté pour la fusion. Est-ce que vous pensez que c'est la raison principale pour laquelle on doit se fusionner ou que ces organismes-là se sont fusionnés?
Mais il peut y avoir plusieurs bénéfices. Et puis, on peut se poser la question, ou la question économique, en fait, est-ce qu'on veut être plus compétitif? Donc, est-ce qu'on veut partager les ressources administratives, financières, graphismes, etc. Donc, on veut partager nos ressources, mais aussi, il y a des bénéfices en termes de l'offre de services qu'on souhaite offrir à nos bénéficiaires. Et là, on parle de la mission. Donc, M. Beaulieu mentionnait qu'il y avait plus de 75 organisations qui comportaient le mot cancer, mais maintenant, quels sont leurs services? Est-ce qu'ils mériteraient de s'asseoir ensemble et de dire, bien, nous, on a des services qui s'adressent à la famille, nous, c'est plus à la personne qui est atteinte, aux survivants, etc. Donc, de voir comment nos services, si on veut vraiment avoir un impact, hein, parce que c'est ce qu'on nous demande beaucoup, nos donateurs.
Oui.
Quel est l'impact que vous avez? La pauvreté, c'est un bel exemple. Là. Est-ce qu'on peut s'attaquer à la pauvreté de différentes façons, mais est-ce qu'on peut vaincre la pauvreté?
C'est une grande question.
Hein, quel est l'arc des services qu'on peut offrir pour justement arriver, parce qu'il y a plusieurs organisations, donc la vision, c'est de ne plus avoir de pauvreté dans le monde, mais comment qu'on peut y arriver si on a des... ensemble. Au lieu d'avoir des actions pointues, maintenant, on peut avoir une vue d'ensemble et proposer vraiment là, une ligne d'action qu'on va mener pour arriver à atteindre nos objectifs.
Donc, plus pour atteindre le même objectif, ça augmente peut-être les chances de l'atteindre. C'est un peu ce que vous défendez peut-être.
Oui. Mais en fait, c'est pas autant ce que je défends, mais ce que je crois qu'il faut étudier.
OK. Est-ce que c'est une tendance, la fusion d'organismes de charité?
Je dirais pas que c'est une tendance. Je crois que la Fondation canadienne du cancer du sein et la Société canadienne du cancer viennent d'amener plusieurs interrogations. Et je pense que là, les gens vont commencer à se questionner, autant au niveau des organismes que du grand public.
OK. Revenons au donateur maintenant.
Oui.
Comment le donateur bénéficie du fait qu'il y ait beaucoup d'organismes versus moins d'organismes? Et je vous dis ça avec une chose en tête.
Oui.
On voit bien, il y a des organismes pan-nationaux, la Société canadienne du cancer en est, mais il y a des divisions par province et les gens tiennent à leur division provinciale. Et même au Québec, on sent que les gens tiennent à leur division régionale. Donc, avoir une SCC, une Société canadienne du cancer dans Lanaudière, les gens sont contents d'avoir ça. Que veut le donateur? Comment le donateur va réussir à profiter de tout ça?
Okay. Bien, je vous dirais qu'à plus petite échelle, là, si on se retourne simplement au niveau provincial. On a vécu en 2015 là, plusieurs fusions hein, en termes de... au niveau du ministère de la Santé.
Oui.
Donc, on a vu l'évolution. Là, nos CLSC se sont transformés, se sont regroupés en C3S. Et maintenant, les C3S ont été regroupés en CISSS. ou CIUS, hein, dans le cas d'un contexte universitaire. Donc, là, la question s'est posée aussi, est-ce que les différentes fondations, parce qu'un CISSS peut avoir plusieurs fondations, hôpitaux, donc une fondation...
Des centres de réadaptation.
Des CHSLD, des organismes plus petits. Bon, on peut parler des fois de plus d'une quinzaine de fondations par CI3S. Donc, c'est beaucoup. Donc, là, la question, c'était de est-ce qu'on regroupe ces fondations-là? Et c'est là que la question du donateur a été soulevée.
Oui.
Est-ce que le donateur qui... Là, on parle en région. Là, est-ce que le donateur qui donne, par exemple, l'hôpital de Saint-Jérôme va continuer de donner si on lui dit que l'argent va peut-être aller à Saint-Jérôme, mais va peut-être aller au CI3S des Laurentides?
Ah ben oui, c'est une belle question.
Et là, l'argent
ça.
Va peut-être se retrouver ailleurs qu'à l'hôpital.
Oui, voilà.
Le sentiment d'appartenance pour les donateurs est très, très, très important. Le sentiment de confiance aussi et de savoir que l'organisation est transparente. Donc, si je donne, où va mon argent? Donc, c'est ce qu'il faut adresser, je crois, là, en termes de questionnement avant aussi de penser fusionner. Comment nos donateurs vont réagir?
Ben, écoutez,
et c'est là que je me demandais, est-ce qu'on devrait inclure nos donateurs dans notre réflexion?
C'est d'excellentes questions, puis surtout une posture intéressante, Jacinthe Roy, que vous proposez, donc de garder le dialogue ouvert avec le donateur. Donc, dans les deux cas, d'un côté, la fusion peut aider parce qu'il y a moins d'argent dépensé, surtout pour des trucs très, j'oserais dire, chers, comme la recherche.
Oui.
Mais de l'autre côté, les gens veulent aussi avoir leur organisme régional, local. Puis même, moi, je m'étais déjà fait dire que des fois, quand il y avait plus de monde qui demandait de l'argent, peut-être que les gens en donnaient plus. Est-ce que vous avez observé une tendance de ce genre-là? Est-ce que ça arrive que les gens qui ont plusieurs personnes qui leur font des demandes de dons donnent plus dans ces conditions-là?
En fait, je n'ai pas de données statistiques là-dessus, mais une chose est certaine. Dans le milieu, on sait que si on ne demande pas, on n'obtient pas. Donc, à partir de ce principe-là, c'est clair qu'il y a de la compétition. Et c'est pour ça qu'il faut se questionner avec les 46 000 organismes sans but lucratif au Québec.
Oui. Ça fait du monde.
Ils ne sont pas tous actifs, là,
non.
Mais si on en prend que la moitié est actif, ça fait beaucoup d'organismes. Per capita aussi, on est parmi une des provinces qui a le plus d'organismes à but non lucratif au Canada.
Et là. Bon, ben, c'est pour toutes ces raisons que la fusion est intéressante et les questions doivent continuer d'être soulevées. Merci beaucoup de l'avoir fait avec nous, Jacinthe Roy.
Au plaisir.
Au plaisir. Jacinthe Roy est directrice générale de l'APGP.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Tel que promis en 2014, le maire de Montréal, Denis Coderre, a fait l'annonce à la fin janvier d'un nouveau programme pour appuyer l'accessibilité des commerces, donc aux personnes en situation de handicap, âgées ou même usant d'une poussette pour transporter bébé. Alors pour réagir à la nouvelle et surtout faire comprendre peut-être les points de vue des gens qu'elle défendent, deux invités avec nous. D'abord, Caroline Tessier, directrice générale de la Société de développement commercial Saint-Denis.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Et Linda Gauthier, présidente du RAPLIC. Bonjour, Linda Gauthier.
Oui, bonjour, Benoît. Bonjour, Mme Tessier.
Donc, tout le monde s'est présenté, tout va bien. Commençons d'abord par Caroline Tessier. Je vais m'adresser à vous parce qu'à cette émission, on reçoit souvent des groupes de défense de droit. Mais pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est une société de développement commercial?
Mais en fait, à Montréal, on sait qu'il y a des artères commerciales ou des lieux où il y a de l'activité commerciale. Donc, les commerçants, à la base, se regroupent pour fonder cette organisation-là qui s'appelle une société de développement commercial. Il y en a qui sont plus de façon sectorielle, je dirais, comme le centre-ville.
Ouais.
Et nous, on représente celle de la rue Saint-Denis, spécifiquement entre les rues Roy et Guildford.
OK. Donc, c'est beaucoup sur le plateau, au fond.
Exactement.
OK. Et votre organisation, ça fait longtemps qu'elle existe parce qu'il y a aussi Quartier Latin, on voit plus loin sur Saint-Denis une autre SDC.
L'apparition des SDC à Montréal environ dans les années 80. Nous, on est nés il y a 6 ans, donc relativement jeune SDC.
OK, donc vous êtes une SDC assez jeune. Comment vous réagissez à l'égard du PAC? On l'appelle comme ça, c'est le programme d'aide à l'accessibilité des commerces.
Bien, en fait, je crois que c'est une très bonne nouvelle parce que, bon, on est tous à un moment donné dans notre vie à mobilité réduite, que ce soit justement, comme vous le disiez, avec la poussette. Ouais. Et je pense que c'est une réalité qui est essentielle à Montréal, partout sur le territoire, donc principalement sur les artères commerciales. C'est bien accueilli parce que je crois que, en effet, tous les commerces devraient pouvoir permettre l'accès à peu importe le public. Bon, pourquoi ces installations-là ne sont pas là depuis la création des logements quasiment? Là, nous, c'est une belle opportunité de travailler sur cet enjeu-là, cas par cas, pour les locaux qui en ont besoin sur la rue.
Bon, alors on entend bien votre enthousiasme, on peut dire. Linda Gauthier, figure bien connue, qui a beaucoup œuvré pour que l'accessibilité commerciale progresse. Comment vous réagissez à ce programme?
Eh bien, je partage quand même un peu l'opinion de Mme Tessier. Je ne sais pas, par exemple, si notre Charles-Olivier Mercier, qui est directeur général de la SDC de l'avenue Mont-Royal, aurait partagé exactement la même, parce qu'on trouve que c'est vraiment trop peu.
OK.
C'est sûr que c'est quand même une lancée, on est dans la bonne voie et tout, mais c'est que ça représente, puis je suis d'accord avec Mme Tessier, c'est important et tout ça, mais ça représente une quarantaine, même pas, peut-être, de commerces par année, là, sur 6 ans. Donc, c'est peut-être un projet pilote, mais il me semble que pour une métropole qui a un budget de 5 milliards annuel, je trouve qu'il y aurait peut-être pu remplir la bourse un petit peu plus que ça, il me semble, en tout cas.
Donc, pour les gens qui nous écoutent, je vous rappelle que ce programme-là a été annoncé et doit servir pour toute l'agglomération de Montréal. Comme vous le disiez, c'est 40 projets, 40 commerces par année qui sont visés pour 1,6 million d'investissements en 4 ans. Donc, ce que Linda Gauthier dit, c'est que 1,6 million versus 5 milliards, c'est pas un effort considérable. Donc, vous sembliez enthousiaste par rapport au programme Caroline Tessier, qui dirigeait la Société de développement commercial de Saint-Denis. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, pour que les membres, les commerces que vous représentez, utilisent le programme?
Bien, nous, en fait, on utilise déjà un programme qui est offert par la Ville de Montréal qui s'appelle le Pram Commerce, où on invite justement les commerçants à rénover soit la façade ou l'intérieur du bâtiment. Et il n'y a pas de formule magique. Hein. On doit faire du porte-à-porte, on doit sensibiliser les gens. Donc, ça veut dire des ressources et du temps, mais surtout du temps de convaincre, de pouvoir, en fait, donner les arguments sur les effets positifs d'apporter de telles modifications. Puis nous, bien, on est heureux, en fait, de voir que le programme Pram fonctionne extrêmement bien parce qu'on très, très bien sur Saint-Denis actuellement. Donc,
et là, il y a eu beaucoup de construction, beaucoup de rénovation des rues, etc. Donc, peut-être que les commerçants ont eu beaucoup de pression puis que ça, c'est un moyen d'en avoir moins, c'est ça?
Tout à fait. Mais là, on parle aux propriétaires. Hein. Souvent, on n'est pas toujours en train de parler aux commerçants. Donc, c'est des gens qu'on est plus difficilement capable de rejoindre. Okay. Donc, c'est là où je parle de temps. Et je ferai juste une petite parenthèse sur ce que Mme Gauthier a dit. Je crois que là, si on prend le ratio tel que mentionné, on fait référence au fait que chaque commerçant utiliserait une enveloppe d'environ 10 000 $ pour effectuer leurs travaux, ce qui amène à un calcul peut-être d'environ une quarantaine de commerces par année. Moi, je crois personnellement, avec ma vision de la rue, que des modifications entre 500 $ et, je vous dirais, 2 000 seraient suffisants parfois pour rendre un commerce accessible. Donc, je crois qu'on est à beaucoup plus
ceux, par exemple, qui ont seulement un petit seuil à l'entrée, c'est sûr que ça implique des aménagements parfois à l'intérieur. Mais bon, écoutez, Linda Gauthier, je vous sens... comment réagissez-vous à ce que présente...
L'accessibilité, justement, je trouve que ne tient pas seulement à l'accès au bâtiment, Mme Tessier.
OK.
Il y a souvent d'autres aménagements qui doivent être faits à l'intérieur. Je prends, par exemple, sur la rue Saint-Denis, ça arrive souvent que les salles d'eau sont à l'étage ou sont au sous-sol. Si on a un restaurant puis on veut aménager une salle d'eau, ça va coûter pas mal plus cher que 10 000 $ Même si on a aplani le seuil ou la marche. Il y a une obligation d'accommodement ici au Québec, puis c'est de cette façon-là, le PAC va aider à ça. Mais on est loin là des droits de la personne. On est tellement loin de ça. C'est sûr que c'est pas le but de l'émission non plus. Mais il me semble que si on descendait tous dans la rue, revendiquer quelque chose, peut-être que le PAC L'enveloppe sera peut-être bonifiée un petit peu plus que ça. C'est okay. un début, mais en tout cas, je suis pas...
On peut regarder comment on peut bonifier cette enveloppe-là. Bon, d'une part, il faut quand même distinguer hein, les commerces. C'est sûr que les restaurants ont une mm-hmm. obligation d'offrir à leurs clients, évidemment, une salle de bain. C'est mm-hmm. assez logique. Il y a beaucoup de commerces quand même qui n'ont pas besoin d'offrir un tel aménagement. Mm-hmm. Mais vous avez raison. Qu'est-ce qu'on fait pour les restaurants? Ça, c'est une bonne question. D'autre part, Linda Gauthier, vous avez déjà dit que vous aimeriez qu'on couvre jusqu'à 100% des travaux
ouais.
avec un programme. Est-ce ouais. que vous êtes toujours en phase avec ce que vous aviez déclaré à l'époque?
Bien, absolument.
OK.
On avait suggéré, nous, qu'il y ait une enveloppe dont, disons, on suggérait 2 millions par année.
OK.
Et que ça soit, à ce moment-là, que les gens qui seraient intéressés, les commerçants qui sont intéressés ou les propriétaires de bâtiments, s'inscrivent à ce programme-là et que l'entièreté des travaux soit couverte par ça.
OK.
Puis que cette enveloppe-là soit bonifiée à tous les ans. Si la Ville de Montréal n'a pas 2 millions à mettre là-dessus, là, je me mets à marcher tout de suite.
Bon, on ne vous demande pas ça, Linda Gauthier. Je pense qu'on ne fait pas juste des miracles à l'émission. Mais sérieusement, votre 2 millions, vous le voyez quoi? Annuellement pour les 4 ans annoncés?
Non, annuellement, non, okay. quand même.
OK, non, mais je veux juste préciser avec vous votre revendication, là. Peut-être qu'on va être plusieurs à table à la portée après l'émission, là.
C'est ça. Non, un 2 millions annuel.
OK. Donc, un 2 millions annuel, 100% couvert. Madame Tessier, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les commerces qui vont tirer des profits d'une clientèle supplémentaire doivent quand même contribuer à un certain pourcentage ou encore, comme Madame Gauthier le propose, doivent avoir 100% de la subvention pour rénover?
Je vous avoue que j'ai pas tout à fait analysé cette question-là en profondeur, étant peut-être habituée justement au partage des coûts. Mm-hmm. Est-ce que parce que c'est de l'argent qui provient des fonds publics, on tient peut-être un investissement de la part justement du citoyen ou autre? Là, je comprends que c'est une cause qui est très différente que celle de rénover une façade de bâtiment. Là,
ouais.
on est bien d'accord avec ça. Par contre, je me prononcerai pas davantage là, sur la question, ne l'ayant pas tout à fait analysée.
Bon, écoutez... On dit aussi que, off the record, si je peux me permettre, on sentait que Mme Vallée, qui est la responsable exécutive du développement social, pas du développement social, de la diversité sociale, qui est aussi responsable de ce programme-là, parce que, bon, l'annonce a été faite par le maire Coderre, mais c'est Mme Monique Vallée qui en est responsable dans les faits. On disait qu'elle était un peu mal à l'aise avec le montant accordé, qu'elle aurait peut-être aimé elle-même qu'il y en ait davantage. Est-ce que la stratégie, vous pensez, c'est d'être capable de dépasser cette marque de 40 projets par année, puis après ça, on va rajouter de l'argent? Comment vous réagissez à ça, Linda Gauthier?
Bien, oui, moi aussi, je l'ai senti mal à l'aise. Mme Vallée, elle m'a téléphoné.
Ah quoi? OK.
Oui, et puis elle m'a pas parlé de sous et tout ça,
mm-hmm.
mais je la sentais, elle me demandait si j'étais contente, sachant que j'allais lui répondre non.
Mm.
C'est sûr que je suis contente en quelque part, mais je veux dire, je peux pas être trop contente. Là, non. Mme Vallée visait plus que ça. Il me semble qu'on a, pour avoir parlé à un moment donné, je pense, il y a peut-être un an, on parlait de quelque chose comme 4 300 000.
OK. Oui, donc c'est 4 millions à long terme, 4 300 000 pour 4 ans.
C'est ça.
OK. Avant qu'on se quitte, Madame Caroline Tessier, on parle évidemment du programme, mais j'aimerais ça... enfin, vous cuisinez sur une chose, vous allez vivre quelque chose de particulier dans les prochaines semaines. Peut-être même que votre perspective va changer. J'aimerais que vous nous en parliez un peu.
Ben, en fait, oui, c'est assez anecdotique, là, le fait que
je
sois ici
aujourd'hui. Mais je trouve pas ça anecdotique.
Non, bon, en fait, c'est peut-être pour moi d'en parler qu'il est. Mais oui, il y a une opération, en fait, aux deux pieds à la fois, qui fait que la mobilité va être réduite, j'imagine, d'une durée de 4 à 6 semaines.
Mm.
Donc, oui, en effet, je vais expérimenter ça pour quelques semaines, de faire mon approche dans les commerces, principalement sur Saint-Denis, parce que c'est là que je travaille, et de mieux comprendre aussi cette réalité-là. Je pense que ça serait bien à tous, en fait, comme on vit parfois des expériences aveugles, on propose aux gens de vivre cette expérience-là, ben, en fait, je crois que ça va être assez...
Oui, ça va changer votre perspective.
Beaucoup d'apprentissage, je pense, qui vont en découler, oui.
Bien, écoutez, on veut suivre ce qui se passe. D'ailleurs, on aimerait vous réinviter quand vous aurez vécu cette expérience pour que vous puissiez en témoigner et juste vous dire, Mme Gauthier, oui. est dans votre quartier.
Donc,
magasiner sur la rue Saint-Denis, vous pourrez presque le faire ensemble.
Oui.
Peut-être que vous seriez des alliés dans des revendications futures.
Excellent.
Voilà,
on
voilà.
On a un petit café ensemble. Hein?
Bien sûr.
Bon, on arrange ça à l'émission. Vous voyez, on fait des rencontres comme ça. Alors, Linda Gauthier, on vous suit sur rapplique.org.
Oui.
Donc, toute l'information aussi sur Facebook.
Oui.
Et on se reparle bientôt.
Merci beaucoup, Benoît.
À bientôt. Et donc, Caroline Tessier, directrice générale de la SDC Saint-Denis, on se rend sur ruesaintdenis.ca. Donc, plus d'informations sur le cœur de Montréal, peut-on lire sur le site web. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois, une chose à la fois. Faut faire une chose à la fois, bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois, une chose à la fois. C'est fou comme y'a rien qui marche quand on court après le temps, quand on court après le temps, y'a rien qui marche. Disait mon père, tant pas faire en si peu de temps. Une chose à la fois. Oh, oh. Il faut pas péter sa coche, surtout pas péter sa coche contre le temps qui change. Et pas comme une fille en dépense, mais si bon, un peu d'avance que de tester sa patience. La patience est une rivière qui pourrait t'emporter. Si courant prend son air, il faut savoir le contrôler. Et faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois qu'on fait des choses à la fois. Une chose à la fois. Faut faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois qu'on fait des choses à la fois. Une chose à la fois. Et c'est si dit l'arbre ambitieux qui a fini par s'abattre. Le temps est un libertin qui pousse en liberté. Je me répète en vain que je devrais m'en douter. Et faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois. Une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois.
L'Afghanistan, l'Irak, la Palestine, le Yémen ou la Syrie, sur ces images, sont le théâtre de conflits d'une violence inouïe.
En journalisme, on évoque souvent la loi des kilomètres pour juger de l'intérêt d'une nouvelle ou d'une situation. On vient d'entendre quelques mots, quelques sons d'une vidéo lancée par Handicap International. C'est difficile de faire ce qu'ils font, puisque souvent, on présente les nouvelles internationales en étant obligé d'y aller de mots chocs, puisque le nombre de morts touche moins, semble-t-il, que les faits divers du centre-ville. Donc, Handicap International, rappelons qu'ils se battent contre les bombes antipersonnelles, les armes explosives dont ils doivent faire preuve pour sensibiliser les gens à ces crimes qui invalident les personnes et qui parfois sèment la terreur dans les villes. Deux initiatives sont à saluer ici. Celle de vidéo que vous avez entendue, qu'on peut retrouver sur YouTube, plongée à 360 degrés dans le quotidien des victimes de bombardements, peut-on lire. Vous pouvez, à ce moment-là même, voir un panorama dans la ville ou signer une pétition contre les crimes à l'endroit des civils durant ces guerres. Aussi, Handicap International est allé encore plus loin en novembre dernier. Ils ont carrément recréé un quartier de la Syrie au cœur de Lyon. Ça prend parfois des mises en scène pour convaincre d'aller plus loin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Handicap International et visitez donc le segment Syrie. Avec nous, M. Rémi Mailloux, directeur général de La Ressource, un organisme d'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, M. Mailloux.
Bonjour.
Ben, merci beaucoup d'être là.
Ça fait plaisir.
On me dit que vous êtes un super collecteur de fonds et que la paralysie cérébrale, c'est pas un obstacle pour vous.
Effectivement, là, dans mon cas, je pense qu'on développe des talents. Et puis,
oui.
Dans mon cas, ben, c'est ça a l'air que, avec un équipe, hein, ça se fait pas tout seul, mais j'ai quelques aptitudes là-dedans.
Donc, pas mal d'aptitudes, beaucoup de gens intéressants et impliqués autour de soi, puis ça, c'est ce qui fait que ça marche aussi bien, vos campagnes de levée de fonds.
Oui, bien, c'est sûr que quand la cause est bonne,
oui.
Quand la cause est bonne, c'est un instant. Quand la cause est bonne, puis que tu dis ce que tu fais, puis tu fais ce que tu dis, ben, normalement, là, ça a des répercussions, puis faut que pour vraiment que les gens croient en ce que tu prêches.
Oui.
Puis qu'ils voient des résultats aussi, hein. Parce que
bien
c'est sûr que si les résultats des campagnes de l'événement étaient en sorte qu'on n'aidait pas les personnes handicapées de la de Miscommun, les résidents du Québec, je pense pas qu'on pourrait avoir qu'on aurait eu après 20 ans, on vient de terminer un téléthon.
Ah ben oui, justement. Ben oui, c'est ça que je voulais vous dire.
503 000, là.
Combien?
503 000.
503 000. Donc, vous avez fondé le téléthon de la ressource.
Oui.
Vous avez amassé 503 000 en combien de temps?
Ben, en 6 heures, mais...
En 6 heures?
C'est-à-dire que le téléthon couronne une quarantaine d'activités faites par des bénévoles.
Ah oui.
Puis ça accumule, puis ça, l'élément marquant, ben c'est le téléthon qu'on finit ça. Pourquoi qu'on fait un téléthon? Ben, premièrement, pour marquer une journée spéciale dans la vie des personnes handicapées.
Oui.
Moi, là, quand les gens viennent au téléthon, puis que je me promène à travers de notre région, puis que les jeunes qui m'interpellent, qui ont des handicaps, puis qui me disent « Rémi, c'est quand est-ce notre téléthon? » Ça veut dire que pour eux, là, c'est comme Noël, hein? C'est une journée qu'on constate que les personnes handicapées, l'intégration des personnes handicapées est importante, parce qu'il n'y a pas de larmes, hein? Il n'y a pas de larmes, moi-même, il n'y a pas rien, là.
C'est ça, c'est de l'espoir que vous... Votre cause, c'est de l'espoir.
Tout à fait. Puis quand on voit les gens progresser dans la vie, parce que durant notre téléthon, on a vu des gens qu'on a aidés depuis 20 ans, on avait quelques témoignages depuis ce temps-là, puis on a vu l'évolution et l'aide que la ressource a apporté à ces gens-là à travers 20 ans. Donc, puis déjà, vois-tu, j'en avais un, entre autres, que la paralysie cérébrale, qui a 50 ans, assez lourdement handicapé. Puis lui, il disait dans son chapeau, notamment, il disait, ben moi, je pensais de mourir à 50 ans.
Mm.
Mais là, avec l'aide que la ressource me procure, puis avec de la vie, puis, tu sais, moi, j'ai plus de limite d'âge.
Écoutez, c'est heureux de cette histoire de réussite, ce témoignage qui vous a sûrement beaucoup ému, qui vous a rappelé à quel point c'est important ce que vous faites. Mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est la ressource?
La ressource, c'est un organisme communautaire qui vient en aide là, de façon tangible aux personnes handicapées qui, le mot est peut-être grand, qui pallie un peu à les... Les programmes gouvernementaux, on colmate des brèches.
Ouais.
Qui fait en sorte que les personnes handicapées attendent moins longtemps pour avoir obtenu soit des équipements spécialisés ou des bourses d'études.
Mais vous aidez justement les personnes dans ce contexte de coupure qui n'ont pas accès rapidement, facilement aux services, c'est ça?
Oui, mais il faut faire attention à monsieur dans le sens que on n'est pas là pour remplacer les services gouvernementaux.
Bien sûr.
On collabore en étroite collaboration avec notre réseau de la santé,
mm-hmm.
qui est une prémisse importante pour bien gérer l'argent que les donateurs nous confient.
Écoutez, M. Mayou, très impressionnant. On continue de vous suivre. Il est possible, d'ailleurs, de vous soutenir en visitant laressource.org, c'est bien ça?
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour, quand on y croit, à votre cause, pour vous soutenir?
Ben, c'est le moyen le plus facile.
Parfait.
C'est sûr que si vous êtes en région, ben, venez nous voir, organiser une activité.
Vous êtes situé où, à Val-d'Or?
On est à Rouyn.
À Rouyn, excusez.
On couvre la Abitibi de Miscommun et l'Ouest du Québec au complet.
OK, merci beaucoup. Rémi Mayou est directeur général de La Ressource. Et merci beaucoup, M. Mayou.
Merci à vous. Merci à Canal M.
Avec plaisir. Donc, faut le surveiller parce que les télétons, c'est pas toujours la meilleure méthode. Et lui, il fait mentir ça. Quelle efficacité, quel dévouement. Enfin, on est tous impressionnés à l'émission. Donc, continuez de surveiller laressource.org. Cette émission, elle est impossible sans une équipe géniale, que j'aime jour après jour. Martin Forgue à la recherche, Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Je voulais aussi rappeler ces personnes qui viennent nous voir. N'ayez pas peur, il est possible de retrouver l'information sur ces intervenants, sur ces organismes, en visitant notre propre page de l'émission Accès libre. Vous pouvez la repérer sur la page canalm.vusezvoix.com. Donc, je vais juste les plier comme du monde, pour que vous le retrouviez si vous êtes en ce moment en train de nous écouter sur votre câble. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Internet, canalm.vusezvoix.com, tout ça au pluriel. Avec nous aujourd'hui, il y avait André Beaulieu, porte-parole de la Société canadienne du cancer, Jacinthe Roy, chroniqueuse de philanthropie, Marjorie Théodore, notre directrice générale à Vusezvoix, Linda Gauthier-Duraplic, Caroline Tessier de la SDC Saint-Denis. Merci à vous tous et toutes. Grâce à vous, on réussit à changer des choses et même la philanthropie, bien, des fois, on n'est pas sûr, là, c'est la bonne voie, mais on dirait que vous avez toutes sortes de manières de la réinventer. Ici Benoît Racette avec vous. On se reparle la semaine prochaine. Et espérons que d'ici là, vous voyez, je suis optimiste. Enfin, espérons que d'ici là, on va atteindre un véritable accès libre.